France Musique. France Musique.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabrielle.
Aujourd'hui, vous nous emmenez dans un univers sonore, littéraire et musical, celui de Virginia Woolf.
Oui, et je vous emmène vraiment dans un voyage sonore. Pas de grande démonstration musicologique aujourd'hui, mais simplement, nous allons passer du temps avec Virginia Woolf. Virginia Woolf était écrivaine, connue pour Mrs. Dalloway, et elle est née en 1882. 1882, c'est l'année de Parsifal de Wagner. Et elle est morte en 1941, l'année de Salt Peanuts, Standard de Kenny Clarke et Dizzy Gillespie. Et si on connaît Virginia Woolf, c'est par son rapport révolutionnaire à l'écriture. Elle aide à développer l'idée de stream of consciousness, l'idée de courant de conscience, un flux de mots censé représenter l'activité cérébrale des personnages. Pour ça, elle utilisait le monologue intérieur indirect qui lui permettait de passer d'un personnage à l'autre, qui lui permettait de flotter entre les esprits des personnages. La conscience humaine transcende les limites des esprits individuels. Virginia Woolf adorait Marcel Proust. Comme tous les écrivains du début du XXe siècle, il avait compris qu'il était impossible de reproduire la complexité de l'esprit humain en utilisant les techniques traditionnelles. Et le monologue intérieur dans un roman permet de représenter l'activité tacite de l'esprit avant qu'elle ne soit ordonnée par le langage. Virginia Woolf détestait James Joyce à cause de ses tourbillons d'obscénité. En étudiant le langage littéraire du XIXe siècle, Virginia Woolf a compris que le roman du XIXe siècle n'allait plus suffire pour montrer les changements de l'homme contemporain. Virginia Woolf.
Un quatuor de Beethoven représente la vérité dans cette gigantesque masse que nous appelons le monde.
Les voici. Quatre silhouettes sombres portant des instruments et qui prennent place en face des carrés blancs sous un ruissellement de lumière. Ils posent sur leur pupitre l'extrémité de leur archet et, l'ayant soulevé d'un même mouvement, l'équilibrent légèrement et, regardant le musicien assis en face de lui, le premier violon compte 1, 2, 3.
Épanouissement, croissance, bourgeonnement, éclosion. Le poirier au sommet de la montagne. Des fontaines jaillissent et des gouttes retombent.
7 ans que nous nous sommes vus.
C'était à Venise.
Et maintenant, où demeurez-vous?
Eh bien, de préférence, en fin d'après-midi, si toutefois...
Mais je vous ai reconnu tout de suite.
La guerre a quand même causé une rupture.
Promenons-nous dans la maison de Virginia Woolf, Monk's House, dans le village de Rodmell, dans le Sussex. C'est ici qu'est née la fascination de Virginia pour la relation entre musique, mots et schémas narratifs. Dans les sons de la nature dans le jardin, dans l'acoustique d'une salle de bain, dans une chaise confortable près du feu, en écoutant les cloches d'une église au loin, en devinant le tracé d'anciens sentiers menant au mont Cabern au loin, et puis surtout, elle construit son univers auditif autour des disques que son mari Leonard Woolf joue le soir. Leonard Woolf conserve de méticuleuses archives de ce qu'il diffuse dans la maison, dans un petit carnet d'une couleur verte fanée, notant scrupuleusement chaque morceau, chaque compositeur, chaque disque. Il est presque possible de savoir ligne par ligne, dans les romans et nouvelles de Virginia Woolf, ce qu'elle avait dans l'oreille au moment précis où sa plume rencontrait la page. Virginia Woolf avait une relation complexe au son et à la musique. Elle et sa sœur Vanessa avaient reçu des cours de musique. Des gouvernantes avaient eu pour mission de les faire chanter et jouer du piano. Et même si Virginia Woolf ne pouvait pas jouer d'un instrument ou même comprendre la musique, celle-ci était devenue un centre d'intérêt jusqu'à la fin de sa vie. D'après son journal, nous savons qu'elle allait régulièrement au concert. Dans sa nouvelle The String Quartet, il s'agit vraisemblablement du quintet avec piano de Schubert qu'elle avait entendu à Camden Hill le 9 mars 1920. Thank you.
Le bateau sombre. Se dressant, les silhouettes montent, mais à présent s'amincissent comme le bout d'une feuille. Ombreuse apparition dont la pointe ardente tire de mon cœur sa double passion. Un seul pétale tombant d'une hauteur immense, comme un petit parachute lâché d'un ballon invisible, tournoie et voltige. Il ne nous attendra pas.
Non, je n'ai rien remarqué. C'est ce qu'il y a de pire avec la musique, ces rêves stupides. Vous dites que le deuxième violon ne jouait pas en mesure ?
Voilà la vieille Mrs. Monroe qui cherche la sortie. Plus aveugle d'année en année, la pauvre, et sur ce parquet glissant.
Mais Virginia Woolf préférait le calme du gramophone familial après le dîner pour écouter du Mozart ou du Beethoven, et surtout pas du Wagner. Quand il s'agit de mettre Virginia Woolf sur grand écran, quelle musique mettre ? Quelle musique mettre quand la voix et l'écriture de Virginia Woolf est déjà si musicale ?
Words, English words, full of echoes, memories, associations, natural. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in the day. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous.
Quelle musique mettre ? Eh bien, une musique de mouvement. Une musique qui mélange toutes sortes de rythmes, mais qui va dans la même direction. Pas de thème qui attire l'attention vers la musique, mais un tapis répétitif qui, par son humilité, va mettre les mots en valeur.
Mrs. Dalloway dit qu'elle l'achèterait les fleurs elle-même.
Lucie, elle, avait du pain sur la planche. Il faudrait enlever les portes de l'orgon. Les hommes de Rumpelmayer allaient arriver.
Quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway, une matinée fraîche à offrir à des enfants sur une plage.
Que de rires et de plongeons. Elle avait toujours eu cette impression à Bourton, chaque fois qu'elle ouvrait en grand les porte-fenêtres, dans ce petit grincement des gonds qu'elle entendait encore avant de plonger à l'air libre. La musique de Philip Glass pour le film The Hours, film de 2002 avec Nicole Kidman en Virginia Woolf. Et même encore aujourd'hui, il faut reconnaître que quand il faut mettre en musique Virginia Woolf, il faut savoir rester neutre musicalement pour mieux laisser libre la mélodie des mots. Ici, Max Richter en 2017, Orlando, Modular Astronomy. Qui ne semble aller nulle part, nous donnant ainsi la place à nous, auditeurs et lecteurs, d'aller quelque part. Max Richter, en 2017.
Cela s'appelle Modular Astronomy. Orlando est un roman sur la transformation. C'est la biographie d'un personnage qui vit plus de 400 ans, qui vit une multitude d'aventures picaresques, dont celle de changer de genre. C'est une œuvre assez joueuse, presque de la science-fiction. C'est cette idée de transformation qui m'a servi de base pour la musique d'Orlando. J'ai pris le thème bien connu de la folia, un standard espagnol du XVIe siècle, et j'ai utilisé cet objet historique plutôt que le personnage dans le roman. J'ai pris le langage harmonique du XVIe siècle, je l'ai placé dans du matériel analogue de séquencement, et j'ai créé des motifs à partir de ces séquences. J'ai alors extrait ces motifs pour en faire quelque chose de jouable à l'orchestre. Merci beaucoup Christophe Dillis.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Nous retrouvons cette chronique sur notre site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.